Voici une question qui va nous amener à mieux connaître Dieu. La Bible démontre-t-elle que Jésus-Christ est éternel? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Voici des questions qui vont ouvrir nos yeux sur la grandeur de notre Créateur. Est-ce que Jésus-Christ est réellement éternel? Peut-on connaître l'âge de l'univers? Quelle était la mission de Jean-Baptiste? Selon la parole de Dieu, quel est le véritable baptême? Est-ce que Dieu existe réellement en trois personnes? Qu'est-ce que la repentance? Pouvons-nous dissocier la repentance de la foi? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est avec nous et il va nous transmettre l'enseignement que donnent les Saintes Écritures en réponse à toutes les questions que nous venons de poser. Mais premièrement, entrons dans la présence de Dieu. Prions. Ô Seigneur, on a besoin de ta présence. On est à tes pieds, on veut communier avec toi, on veut goûter à ta présence et recevoir tes instructions pour que nos vies soient encore transformées. Pour qu'on arrive à l'image de Jésus un jour, bientôt. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, mes amis, nous revenons au premier chapitre de l'Évangile selon Marc. Ce chapitre est rempli d'action, car l'Évangile de Marc est l'Évangile d'action. Cet Évangile cite très peu les prophéties de l'Ancien Testament. Marc s'adressait aux Romains, qui connaissaient peu le judaïsme et ses prophètes. Il n'y a que deux références, et il les cite en débutant son évangile. Il ne donne pas la généalogie de Jésus, mais il dit. Marc chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. J'aimerais que nous nous arrêtions sur cette expression aujourd'hui. La Bible nous parle de trois commencements. Le premier commencement ne se trouve pas dans le livre de la Genèse, mais dans l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Ce commencement se trouve dans l'éternité, donc il est absolument impossible d'y mettre une date. C'est un commencement logique plutôt que chronologique, car dans ma conception, je dois avoir un point de référence dans le passé. Si je vois un avion dans le ciel, j'assume qu'il y a un aéroport quelque part. Je ne sais pas nécessairement où se trouve cet aéroport, mais je sais que l'avion a décollé d'un aéroport. Lorsque je considère l'univers, je sais qu'elle a débuté en quelque part et qu'il y a un Dieu quelque part. Je sais qu'il y a un Seigneur Jésus. Je ne sais rien au sujet de ce commencement. Je ne peux pas rien vous dire si vous me questionnez au sujet de ce commencement. Jésus est venu vers nous, de l'éternité. Mon point de référence est le moment où il vient à notre rencontre, aussi loin dans le passé que je peux l'imaginer tout en sachant qu'il existait avant cela. Je ne sais pas où se situe l'aéroport dont il est décollé, ni comment il l'a fait, mais le fait qu'il existe montre qu'il est venu de quelque part. Le deuxième commencement est celui de la Genèse, et il s'est produit dans le temps. Je ne sais pas quand exactement l'univers fut créé, et je doute que personne ne le sache exactement. Autrefois, les scientifiques suggéraient 2 millions d'années pour passer à 200 millions d'années, ensuite à 2 milliards d'années. Et aujourd'hui, les scientifiques croient que l'univers est âgé d'environ 13 milliards d'années. Les hommes ont premièrement cru que la Terre avait 6 000 ans. Maintenant, on lui donne quelques milliards d'années. Cette estimation va probablement changer au fur et à mesure que la technologie nous permettra de faire des observations encore plus précises. Notre Dieu est un Dieu éternel, et il n'est pas lié par le temps. Donc, l'univers pourrait être encore plus âgé qu'on le croit. Dieu est de toute éternité. Ce sont nous, les humains, qui sont les nouveaux venus, et il y a bien des choses que l'on ignore encore au sujet de l'univers. Lorsque nous serons en présence de Dieu, et que nous connaîtrons comme nous sommes connus, lorsque nous nous rendrons compte que nous voyons comme à travers un miroir, d'une manière obscure, alors nous nous étonnerons de notre ignorance et de notre stupidité. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ce que nous appelons de la sagesse aujourd'hui est de la folie devant Dieu, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous croyons que la sagesse de Dieu est folie. Maintenant, nous connaissons la date du troisième commencement, commencement de l'Évangile. Le verset 1 dit la même chose que 1 Jean chapitre 1 verset 1er, ce qui était dès le commencement. C'est le moment où Jésus-Christ s'est fait chair et qu'il est né d'une vierge. L'Évangile, c'est Jésus-Christ. Ne présentez pas l'enseignement de Jésus et ses miracles comme étant l'Évangile. Comme nous l'avons dit dans le livre d'Exode, les enseignements de Jésus ne sont pas l'Évangile. Nous avons cité le président d'un séminaire californien qui affirmait que l'homme pouvait apporter la paix dans le monde en suivant l'enseignement de Jésus tout en niant sa divinité. Cet homme se disait conservateur, mais il ne l'est certainement pas. Je ne puis être d'accord avec lui. L'Évangile, c'est la mort et la résurrection de Christ. L'apôtre Paul et Jean-Marc devaient alors être de bons amis au moment de la rédaction de l'Évangile. Marc devait avoir lu l'épître de Paul aux Romains et avoir obtenu les détails de l'Évangile de Simon-Pierre. Cependant, Paul a dû lui donner l'interprétation de l'Évangile. Marc veut maintenant nous donner les faits se rapportant à l'Évangile, soit la venue de Christ dans le monde ainsi que l'exercice de son ministère. Un ministère public pendant 3 ans, c'est le commencement de l'Évangile. C'était conforme aux prophéties. Marc, chapitre 1er, versets 2 et 3. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Ces versets parlent de Jean-Baptiste, et Marc le confirme. Il a dit que la venue de Jean-Baptiste était l'accomplissement de cette prophétie. Verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Je désire vous proposer une paraphrase de ce verset afin d'en faire ressortir tout le sens. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance en vue de la rémission des péchés. Ce sens est plus près de celui suggéré par la proposition grecque « eis » qui se prononce « is ». La mission de Jean-Baptiste était de préparer la venue de Jésus-Christ dans le monde. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Il est important que nous comprenions que tout ce que faisait Jean-Baptiste avait pour but d'aplanir les sentiers pour la venue de Christ. Versets 5 et 6. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean-Baptiste était un homme remarqué, non seulement à cause de son message, mais à cause de ses vêtements et de son régime alimentaire. Jean-Baptiste avait été appelé de Dieu et mis à part dès le sein de sa mère pour ce ministère. Il était de la classe des prêtres, un lévite, et on s'attendait à ce qu'il fasse le service du temple à Jérusalem. Mais Dieu en a fait un prophète, et il est allé au désert d'où il prêche. Les gens venaient de partout pour l'entendre. Aujourd'hui, nous aimons construire des églises dans les quartiers résidentiels, afin que la population puisse facilement venir à l'église le dimanche. Nous pensons qu'une église doit être accessible. Jean ne fonctionnait pas selon cette théorie. Il s'en est allé dans le désert, et ce sont les gens qui allaient à lui. Verset 7. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. » Ceci nous révèle davantage cet homme remarquable. Il attirait les foules comme nous l'avons vu. Il était un homme ferme et étrange. Il était l'unique voix de Dieu. Il s'habillait et mangeait différemment des autres. Cependant, il était un homme très humble. Verset 8. « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Nous avons ici la grande distinction entre Jean et Jésus. Le véritable baptême est celui du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est un rituel. Ce baptême est important, puisqu'il sert de témoignage de notre nouvelle naissance en Christ. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous avons vu que Jésus s'est fait baptiser afin de s'identifier à l'humanité. Verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Notez le grand titre que nous avons ici. Jésus vint. Quelle bonne nouvelle! De plus, Jésus reviendra un jour. Ce sera une autre grande nouvelle. Un autre grand titre merveilleux. Ici, Jésus vient de 30 ans d'obscurité à se faire former dans la petite ville de Nazareth. Il vient pour s'identifier à l'humanité en passant par les eaux du baptême. Vous rappelez-vous ce que Matthieu a raconté au sujet de ce baptême? Jean ne pensait pas que c'était à lui de baptiser Jésus. Ce devait plutôt être l'inverse. Jésus lui avait dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu chapitre 3, verset 15. Remarquez que Marc emploie le nom Jésus. Jésus vint. Nous allons remarquer que c'est le nom qui sera utilisé habituellement dans cet évangile. Le nom de Jésus est utilisé plus souvent dans l'évangile de Marc que dans les autres évangiles. Versets 10 et 11. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Ici nous voyons la Trinité en action. Nous voyons le Seigneur Jésus, la deuxième personne de la Trinité qui sort de l'eau. L'Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, descend sur Jésus sous forme de colombe. Finalement, on entend la voix de Dieu, le Père, la première personne de la Trinité. La voix dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Nous voyons la Trinité à l'œuvre. Nous voyons aussi que Dieu confirme que Jésus est son Fils et qu'il est en mission pour lui. Son message est d'origine divine. L'action se déroule rapidement dans ce chapitre. Jésus est le serviteur. Jean-Baptiste l'a présenté. Le Père l'a identifié et a mis son sceau d'approbation sur lui. Maintenant, Christ sera initié par une très grande tentation. Verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Le mot grec traduit « pousser » a une connotation d'intensité et de gravité. L'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté. Nous devons nous rendre compte de cela. C'est une épreuve qui répondra à la question. peut-il accomplir sa mission? De nombreux autres hommes avaient échoué face à la tentation. Le premier à tomber fut Adam. Noé a survécu au déluge pour chuter en prenant une cuite. Abraham a fait quelques chutes. Moïse aussi a dû subir le châtiment de Dieu. Après avoir conduit le peuple hors d'Égypte jusqu'à la terre promise, il n'a pu y entrer. Que dire du roi David qui commit l'adultère et un meurtre? Cette épreuve démontrera que Christ est qualifié pour sa mission. Verset 13. Où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Marc ne nous donne pas tous les détails que nous retrouvons dans Matthieu et Luc. Le texte nous dit simplement que Jésus passa 40 jours dans le désert, tenté par Satan. Maintenant, Jésus fut tenté tous les jours pendant 40 jours. Certains ont l'impression que Jésus a jeûné 40 jours pour être ensuite tenté par Satan. Mes amis, il a été tenté tout le temps qu'il fut dans le désert. De plus, plusieurs pensent que les bêtes sauvages ont participé à la tentation. En fait, Marc dit qu'il était avec les bêtes et les anges et que tous deux l'ont servi. Les bêtes font partie de la création et elles ont été placées sous la domination de l'homme. C'est pour cette raison que Dieu les a créées. La planète fut créée afin que l'homme ait un endroit où habiter. Autant qu'on sache, la Terre est la seule planète habitée et habitable. Beaucoup pensent qu'il doit y avoir de la vie intelligente sur d'autres planètes vu l'immensité de l'univers et le nombre époustouflant de galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles. Affirmer cela est de la spéculation. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité scientifique, certains scientifiques ont publié des articles au cours des dernières années démontrant comment il était improbable qu'il y ait une autre planète qui se conforme à toutes les conditions nécessaires pour avoir de la vie comme sur Terre. Ce n'est pas toute la communauté scientifique qui croit qu'il y a de la vie ailleurs dans l'espace. La revue Québec Science a publié un article intéressant sur ce sujet dans son édition de juillet-août de l'an 2000. L'article écrit par Vincent Sicotte s'intitule « La Terre, une exception astronomique, les extraterrestres de vulgaires microbes ». Aucune observation ne confirme la présence de vie complexe ailleurs dans l'univers. Nous avons une merveilleuse écologie qui ne peut pas exister partout dans l'univers. Notre système écologique nous fournit la nourriture dont nous avons besoin, et l'homme est en train de la détruire. La racine étymologique du mot « écologie » pourrait vouloir dire « maison ». La planète est la maison de l'humanité. Les bêtes qui sont sous l'homme et les anges qui sont au-dessus de l'homme ont servi Jésus-Christ. C'est ce que Marc affirme ici. Versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus allait dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Après la tentation, Jésus-Christ entreprend son ministère public. Notez le grand titre de Marc. Jésus alla. Après que Jean-Baptiste fut emprisonné, Jésus alla en Galilée. Il débute son ministère en annonçant l'évangile de Dieu par ces mots. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le message de Jésus est le même que celui de Jean-Baptiste dans l'évangile selon Matthieu. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu, chapitre 3, verset 2, ainsi que chapitre 4, verset 17. « Je crains que de nos jours, nous modifions l'ordre de ce message. Nous plaçons la foi avant la repentance. lorsque vous vous tournez vers Jésus-Christ par la foi, vous vous détournez aussi de quelque chose d'autre. La repentance est un virage de 180 degrés. La repentance, c'est se détourner de quelque chose. Si vous ne vous détournez pas de quoi que ce soit, alors vous ne vous virez pas vraiment vers Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 décrit la repentance. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est un fait. Si une personne se tourne véritablement vers Christ, des changements visibles se manifesteront dans sa vie, indiquant qu'elle s'est détournée de quelque chose d'autre. Les Thessaloniciens ont laissé leurs idoles pour aller à Dieu. Il n'y a pas de contradiction dans ce concept de la repentance. L'important, c'est que les gens croient dans l'Évangile. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Citation des paroles de l'apôtre Paul de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 21. Ici, l'apôtre Paul reproche à certains Corinthiens de ne pas se repentir, ou se détourner, ou d'abandonner leur impureté, leur impudicité et les dissolutions auxquelles ils se sont livrés. La repentance est un détournement complet du péché. Pas de simple regret, pas une simple tristesse. La repentance est indissociable de la foi. Lorsque nous comprenons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui a donné sa vie afin de régler la question du péché, nous nous détournons de notre vie de péché pour nous réfugier dans les bras de notre Sauveur. Nous rendons compte que le monde conduit à la misère, à la souffrance et à une peine éternelle en enfer. Nous plaçons notre entière confiance dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, à la croix pour notre salut. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Citation d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Le sang de Christ versé à la croix nous obtient plus que le pardon de nos péchés. Il nous en libère, il nous en purifie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Citation de Jean, chapitre 3, verset 36. Malheur à celui qui ne répond pas à l'appel de Jésus. Jésus a versé son sang à la croix parce qu'il veut que nous revenions à Dieu. Lorsque nous venons à Christ, Dieu nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Mais celui qui rejette le don gratuit que Christ nous a acquis au prix d'une très grande souffrance, au prix de sa vie, devra subir la colère de Dieu un jour. Chers amis, placez votre confiance en Jésus-Christ. Repentez-vous et croyez. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 16 à 45.
Merci beaucoup, Régent. Voilà, la Bible est bien claire. Jésus-Christ est éternel. Quel bon souvenir pour moi quand j'entends citer l'Évangile de Jean au premier chapitre, verset 1. Je connais ce verset-là par cœur. C'est d'ailleurs le premier verset que j'ai appris le jour même de ma conversion. Régent nous l'a lu, puis j'aimerais vous le citer par cœur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand j'ai lu ce verset-là, le 6 août 1977, j'ai tout de suite dit, « La parole, c'est Jésus !» Et c'est l'Esprit de Dieu qui venait de me le révéler. Quelle joie! Pour que vous compreniez bien ce que je vous dis, laissez-moi vous raconter. un an avant de lire ce verset, quelqu'un avait essayé de me parler du Seigneur Jésus pour que je puisse connaître son amour pour moi et pour que je puisse recevoir le cadeau de la vie éternelle. Mais j'ai refusé d'écouter. Cette personne, c'était mon guitariste Robert Goulet. Puis après ça, je ne l'ai pas revu pendant un an. Mais il avait toutefois suffisamment d'influence pour moi pour que je me décide d'aller m'acheter une Bible au magasin Eaton que je fréquentais souvent dans ce temps-là. Et une fois rendu chez moi, je m'étais installé sur mon balcon au soleil par une belle journée d'été en disant « Bon, quand on lit un livre, on commence au début. » Alors j'ai donc ouvert le livre au premier chapitre de la Genèse. Puis après avoir lu quelques versets, j'ai dit « Bon, bien, je crois que ceux qui nous disent là, que seuls les théologiens peuvent comprendre ce livre compliqué, ils ont raison. » Alors j'ai fermé ma Bible et je l'ai mise dans ma bibliothèque avec ma collection de beaux livres de toutes sortes. Mais pour revenir à un an plus tard, l'Esprit de Dieu que je venais de recevoir en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur me révélait que la parole, dans ce verset de Jean, c'était Jésus. Puis ensuite, un peu plus loin, au verset 14, je recevais la confirmation que la parole était bel et bien Jésus. Laissez-moi vous le citer. « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors, je ne peux pas vous dire à quel point j'étais excitée de pouvoir comprendre que la parole de Dieu, la Bible, ce grand livre de Dieu, avait été écrit pour moi. Puis Dieu voulait que je le comprenne. Il m'avait donné son esprit, enfin, pour que je comprenne. Mon ami, as-tu l'impression que ce livre est trop grand, trop compliqué pour toi? Laisse-toi pas influencer par ce mensonge qui vient de l'adversaire de Dieu, celui qui veut pas que tu connaisses ton Créateur, qui veut pas que tu passes l'éternité avec Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 25, Jésus a dit quelque chose de bien intéressant à ce sujet. Il a dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Aimerais-tu devenir un enfant de Dieu? On peut retourner à l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 12 et 13. Et cette fois-ci est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, ça s'adresse à toi, ça, si tu reçois la parole, c'est-à-dire Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors tu peux devenir un enfant de Dieu en ce moment même, si tu as la foi en Jésus-Christ. Demande-lui de te sauver.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.